J'ai soif. Et j'aime bien boire. Je suis quelqu'un qui boit beaucoup, moi. Je suis un grand buveur. Mais, entendons-nous bien, avec modération, le vin, l'eau, on peut y aller. La soif. Si vous avez soif, vous me le dites, il y a des bouteilles. Hein, faut pas manger. Oui, la soif, c'est quelque chose de terrible. Comment étancher sa soif? Et si, quand on fait une grève de la faim, on peut rester des jours, voire des semaines, sans manger, quant à se priver de boire, on ne peut pas rester autant de temps. On a besoin de boire, sinon on meurt. Cette soif physique que nous avons. Mais il y a aussi une autre soif, une soif spirituelle, dont ce monde est avide. Soif de liberté. Qu'est-ce qu'on peut en parler, soif de liberté? Et parmi nous, il y a quand même pas mal de 68 arts, parce que vous avez 10 ans plus que moi, minimum. Non, mais ça, blague dans le coin, je me rappelle de mai 68. Moi, j'étais encore gamin, j'avais une dizaine d'années. Mai 68, on arrachait les pavés à Paris. Et la jeunesse belge aussi était un peu surexcitée, un peu partout dans le monde. Comme on écoutait beaucoup les infos à la radio à l'époque chez mes parents, donc même petit gamin, j'écoutais cette révolution et cette soif de la jeunesse de l'époque, de votre jeunesse, mes frères, mes sœurs. C'est pas péjoratif, hein, c'est bien. Remercier le Seigneur d'être toujours là. Que le Seigneur vous a prêté vie, c'est quand même un bon témoignage. Et ces jeunes-là étaient avides de liberté. Il est interdit d'interdire, on criait dans les rues de Paris, et qu'est-ce qu'on a crié? La liberté sexuelle est née quelque part avec mai 68, avec tout ce que ça a pu engendrer. La jeunesse de l'époque, comme la jeunesse actuelle, comme le monde actuel, avait soif de quelque chose, soif de quelque chose d'autre que ce train-train que le monde vit, que nous vivons. Et voilà que, 50 ans après, le monde a toujours soif. Et il n'a toujours pas trouvé la source de l'eau vive. Et c'est ce qui m'amène à cette histoire que vous avez peut-être deviné de quoi je vais vous parler. Cette femme samaritaine, Jean chapitre 4. J'ai intitulé ce message « Donne-moi à boire ou la soif de Dieu ». A-t-on encore soif de Dieu à notre époque? On a soif de quelque chose en tout cas, mais on ne sait peut-être pas de quoi on a soif. Et l'homme a besoin de s'élever un peu plus. Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le Seigneur lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Jésus, fatigué par la route, nous a-t-il dit, Jésus est complètement éreinté et il a besoin de repos. Et en plus, il a soif, même très soif. Nous sommes en plein midi et le soleil tape dur. Et Jésus, après cette marche, se repose un peu pendant que ses disciples sont partis chercher des vivres. Cela prouve aussi que le Fils de Dieu, ayant pris une forme humaine, a ressenti tout ce qu'un être humain peut ressentir. La faim, la soif, la fatigue, la joie, la peine, la colère, la tristesse, etc. Tous les sentiments qu'un être humain peut ressentir tout au long de sa vie, Jésus a ressenti tout cela. Dimanche dernier, il nous a été rappelé de l'état de fatigue que nous pouvons connaître. Et Jésus a connu ces moments aussi. Jésus est passé par tous ces états que nous humains nous passons, mais sans tomber dans le péché, en passant même par la colère et tout cela. Jésus s'est fâché, oui, mais il n'a pas commis de péché. Et aujourd'hui, dans notre récit, dont on vous relate ce matin, il est tenaillé par la soif. Et voyant une femme qui s'approche du puits, venant puiser à ce puits, il se permet de l'aborder, faisant fi des convenances de l'époque. La soif est très forte. Et Jésus, sachant aussi comment cette conversation va tourner plus tard. Le fait que Jésus se trouve assis au bord du puits n'est pas un hasard. Rien n'est fait au hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Tout est dirigé selon sa volonté pour notre vie, pour la vie de chacun d'entre nous, pour ce monde. Et j'irai jusqu'à dire que Jésus attendait avec impatience cette rencontre. Et c'est pour cela qu'il s'est installé au bord du puits, afin de ne pas rater la venue de cette femme. A-t-il salué cette femme ? L'histoire ne nous le dit pas, mais dès que Jésus voit arriver cette femme au bord du puits, il lui demande à brûle-pourpoint, donne-moi à boire. Et cet homme, au lieu de s'exécuter et de puiser de l'eau afin de désaltérer cet étranger, non, au lieu de cela, elle s'offusque qu'un juif s'adresse à elle. Comment oses-tu m'adresser la parole, toi qui es juif, à moi qui suis une femme samaritaine? Et nous-mêmes, nous sommes ainsi parfois, à notre époque actuelle, on ne parle pas avec n'importe qui. Ma maman m'a toujours dit, tu ne parles pas avec les gens que tu ne connais pas. Et je faisais ça parce que j'obéissais à ma maman, j'ai toujours été un enfant très obéissant. Ça a changé après, mais bon. Encore maintenant, une différence de classe sociale. On ne se mélange pas entre classes, entre nationalités, entre religions différentes. On n'a pas toujours trop envie de s'entraider. Il y a le qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce qu'on penserait de moi si je m'adresserais à cette personne de petite vertu pour lui annoncer l'évangile, annoncer la parole à telle ou telle personne ? Ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas du même rang. On ne peut pas se mélanger ainsi dans notre société. Encore de nos jours, on fait attention à tout cela. Et tout cela n'a jamais rebuté Jésus. Il est allé vers tout le monde. Et on lui a reproché bien souvent de se mêler aux prostituées, de se mêler aux pharisiens, aux publicains, de se mêler à tout genre de personnes. Jésus n'a jamais été rebuté par cela. Il adorait aller vers les indésirables, pour choquer les gens bien, les oublier, les victimes de cette société. Jésus a toujours été vers ces gens-là. Et nous, sommes-nous prêts à nous adresser, à aller vers ces gens-là, afin de leur témoigner de notre affection, de notre amour, de l'amour de Dieu qui est en nous? Bien sûr, Jésus, comme il l'a dit, avait vraiment soif. Et au fond, l'excuse était facile afin d'aborder cette femme. Cette femme n'était pas fort abordable. Elle était sûrement montrée du doigt par son entourage. La vie de son couple était fort difficile. C'était plutôt des couples libres, parce qu'il nous a dit qu'elle en était à son cinquième mari. Et celui qu'elle avait, c'était même pas son mari. Donc vous imaginez un peu quel genre de femme c'était, surtout à cette époque. Maintenant, quand je vois parfois, je lis certaines biographies de certains acteurs, ils ont leur quatrième, cinquième, sixième femme, et on dirait que c'est, plus on en a, plus c'est une collection. Et on est fiers. Mais à ce moment-là, les gens étaient plutôt montrés du doigt et on essayait de les éviter. « Donne-moi à boire. » Et elle ne comprend pas que Jésus s'adresse à elle alors qu'il est juif. Et Jésus aurait pu répondre comme un macho, lui dire « T'occupe pas si je suis juif, toi la femme, tu me donnes à boire. » Non, Jésus n'a pas agi comme ça. C'était plutôt la mentalité de l'époque, et c'est encore la mentalité chez nous. Pour certains, et dans certains pays, c'est plutôt comme cela, la femme est vraiment réduite à presque rien. Jésus va directement au but avec cette femme, il va à l'essentiel, oubliant quelque part sa propre soif, il aborde directement cette femme sur le plan spirituel, allant toucher bientôt le problème de cette femme et le pourquoi elle est obligée de puiser en plein midi. Parce que quand tous les autres se cachaient chez eux parce qu'il faisait trop chaud, elle se déplaçait à ce puits pour puiser de l'eau en étant presque sûre qu'elle ne rencontrerait personne, qu'elle ne soit montrée du doigt, qu'on l'évite. Et Jésus lui dit, si tu m'aurais demandé à boire, tu aurais eu un cadeau. Un cadeau. C'est toujours agréable de recevoir des cadeaux. Un plus un gratuit. Un plus un gratuit. Qu'est-ce qui n'est pas séduit par cette publicité? Hier, j'ai reçu les prospectus du Cora, deux plus un gratuit. Deux plus deux gratuit. Mais c'est extraordinaire. Et Jésus lui dit, si tu m'aurais demandé à boire, je t'aurais donné un cadeau. Comprends pas. Jésus sait comment faire fondre la glace. Allez, donne-moi à boire, tu auras un cadeau. Cette femme, elle sent un peu l'arnaque. Comme nous pouvons aussi connaître certaines arnaques quand nous achetons sur Internet et que nous ne voyons pas notre cadeau arriver ni notre colis que nous avons payé. Qui est cet individu qui me demande à boire et qui veut m'offrir un cadeau? Si lui me donne à boire, mais il n'a rien pour puiser. Tu veux m'offrir de l'eau vive, mais c'est quoi ce truc? Je ne vois rien en toi qui puisse me donner à boire. Nous avons hérité ce puits du grand Jacob. Ses fils, ses troupeaux ont bu à cette eau. Et toi, tu me proposes de l'eau vive. Tu te crois supérieur à tous les prophètes. Et Jésus lui dit, en buvant cette eau, tu auras toujours soif, mais celle que je te propose va étancher ta soif, lui dira Jésus. À ces mots, elle devient quand même intéressée par les paroles de Jésus. Elle change un peu d'attitude envers Jésus. Là, je suis preneuse. Je n'ai plus envie de me taper le puisage d'eau tous les jours sur le temps de midi. Et avoir l'eau courante à la maison, c'est intéressant, hein, qu'elle se dit. Ah, ça m'intéresse. C'est génial, ça. Tu es peut-être le responsable de la compagnie des eaux. Tu travailles pour la Sylve, peut-être. Et tu vas me faire parvenir l'eau chez moi. Non, mais Jésus voulait placer une autre eau courante. Cette eau courante, il voulait la placer en elle. Cette source que seul Dieu peut faire jaillir dans une vie. Mais Jésus va la conduire sur un autre terrain, dans un domaine qu'elle ne soupçonnait pas. Oh, tu viendras quand même tous les jours puiser de cette eau au puits. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu viendras tous les jours à ce puits. Ceci est un besoin physique tout à fait normal. Tu auras toujours soif physiquement et tu viendras puiser de l'eau. Tu auras besoin de cette eau pour cuire ta soupe, pour préparer ton café et tout ça. Mais moi, je te parle d'un autre puits. Le puits de la vie abondante que je voudrais te faire découvrir. Frères et sœurs, l'homme a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autre chose pour combler ses besoins physiques. Il faut que l'homme s'élève. Il nous faut nous élever, frères et sœurs, vers ce qui est spirituel, au lieu de rester terre à terre. L'homme a besoin de s'élever vers Dieu. Pourquoi tant de religions? Pourquoi tant de philosophies dans ce monde? Parce que l'homme, peut-être, il l'ignore, mais il a été créé à l'image de Dieu. Et il a besoin d'autre chose pour satisfaire sa vie spirituelle. Il ne peut pas se satisfaire de ce que la société lui offre, ce que la technologie lui propose. Ce que les amusements aussi agréables soient-ils, lui procurent comme plaisir, car ce plaisir est très éphémère. Et quand on rentre chez soi, après s'être bien amusé, on retourne chez soi avec ses problèmes, ses difficultés. Il ne peut pas se satisfaire éternellement de loisirs. Il ne peut pas se satisfaire éternellement par la boisson. Par la drogue, par quoi que ce soit. L'homme a besoin de plus. Il a besoin de quelque chose de plus élevé. Et seul Dieu peut satisfaire entièrement un être humain. Jésus dira dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Voilà. Voilà la solution pour l'humanité et pour cette femme. Venir vers celui qui apporte l'eau vive à l'être humain. L'homme a soif, mais il ne sait pas qu'il a soif de la présence de Dieu dans sa vie. À nous, chrétiens, de leur montrer le chemin, de leur faire comprendre que l'homme doit s'élever, de leur faire comprendre de la même manière que Jésus a essayé de faire comprendre à cette femme. Et cette femme est dans cette situation, boire aux citernes crevassées de ce monde. Jérémie dira, dans le chapitre 2 de Jérémie, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » À l'époque, le peuple d'Israël buvait à ces sources, à ces citernes crevassées, ainsi que cette femme et notre monde, encore aujourd'hui, il y boit. Il y boit même à grande gorgée, jour après jour, dans ses citernes crevassées. Nul repos pour l'âme et le corps en allant vers ses sources. Et Jésus essaye de faire comprendre à cette femme quelle est sa situation en parlant avec elle. Son cœur se radoucit tout doucement. Jésus connaît la situation compliquée de cette femme, comme il comprend chacun d'entre nous. Rien n'est compliqué pour Dieu. Et comme pour cette femme, il nous connaît individuellement. Moi, je vous connais, on se connaît sans se connaître. Je ne vous connais pas intimement. Même nos conjoints ne nous connaissent pas intimement comme Dieu nous connaît. Il y a tellement de jardins secrets dans nos vies que nous n'osons peut-être pas dévoiler, et Dieu les connaît, ces jardins secrets. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Et Jésus lui propose alors d'aller chercher son mari afin qu'ils partagent ensemble cette bonne nouvelle. Mais elle n'a pas de mari. Elle en a collectionné quelques-uns, et celui-ci, avec qui elle vit, n'est même pas son mari. Et Jésus lui dévoile sa vie. Elle est confondue devant cet homme. Elle comprend qu'elle vit dans le désordre et qu'elle ne peut plus vivre ainsi. Jésus lui a fait comprendre comment elle vivait, comment elle était, par ce simple mot « donne-moi boire ». Elle comprend que sa vie est un échec. Voilà d'où vient son problème, d'où vient cette soif qu'elle n'arrive pas à étancher. Et quelle est parfois notre soif ? Que nous ne parvenons pas à étancher. Même si nous sommes chrétiens, regardons un peu dans notre vie si nous buvons tous les jours à la source d'eau vive. Et si de temps en temps nous ne goûtons pas à ces citernes crevassées. Et cette femme, elle réalise qu'elle doit mettre de l'ordre dans sa vie. Jésus lui révélant son état de péché. Et elle réalise que ce voyageur assoiffé n'est pas n'importe qui. Est-il un prophète ? Et le ton et le comportement de cette femme s'adoucit de plus en plus. Que dois-je faire pour me confesser ? Où dois-je aller ? Y a-t-il un endroit spécial, une ville spéciale pour prier ? Voilà, ça la tracasse. Où faut-il aller ? Que dois-je faire ? Pour rencontrer Dieu, il n'y a pas d'endroit spécial. Dieu se laisse trouver quand on le cherche, où l'on se trouve, quel que soit notre lieu, Dieu se laisse trouver pour qui le recherche. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à cette femme. Il n'est nullement ici de devenir membre d'une religion quelconque. Il n'est pas nécessaire d'être protestant, d'être catholique, d'être orthodoxe. Quoi que ce soit, ce n'est pas ça que Jésus va lui demander. Il est question ici de rencontre, de rencontrer Dieu, d'avoir une relation intime avec celui qui va nous apporter l'eau vive dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous sommes tous appelés encore à faire ce pas vers Jésus ce matin. Jésus l'a conduit vers le Père. Et cette femme sait que les Juifs attendent le Messie et Jésus se présente comme étant le Messie. Chose qu'il a dit très peu souvent à quelqu'un, qu'il était le Messie. Bien souvent, quand il y avait un miracle, il disait « ne dites rien ». Mais là, il se révèle à cette femme. C'est un privilège qu'elle a eu. De cette révélation. Jésus n'est pas allé par quatre chemins avec cette femme. Il a mis le doigt où ça fait mal. Et son âme a été touchée. Et elle sent qu'il y a une transformation qui se produit en elle. Elle sent qu'il y a une transformation qui va s'opérer, qui est déjà en train de se préparer en elle. Et nous verrons que cette femme ne sera plus gênée par le regard des autres. Elle sait maintenant que sa vie a été pardonnée, transformée par Jésus. Elle ose affronter son voisinage, chose qu'elle ne faisait pas. Et elle ne peut pas garder pour elle-même cette rencontre qu'elle a vécue, cette rencontre qui a bouleversé sa vie. Elle partage sa joie, car la joie, ça se partage. Elle ne veut pas garder pour elle. ce merveilleux trésor, cette découverte de cette source d'eau vive. La joie se partage et la paix est communicative, frères et sœurs. Elle a trouvé la source d'eau vive. Elle sait que sa vie va se changer en profondeur. Et grâce à cette femme, un réveil spirituel se produit dans ce village, car elle va meuter tous ses voisins, tous les villageois pour lui dire « Venez, j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait et il a transformé ma vie. » Et ces gens ont été vers lui pour étancher leur soif de spiritualité. Voilà l'œuvre de Jésus dans nos vies. Cette histoire, pour nous chrétiens, doit être une piqûre de rappel, frères et sœurs. Nous pouvons parfois avoir une vie chrétienne insipide, ne reflétant pas vraiment ce que Jésus nous propose. Et il est peut-être temps de réaliser pour nous à quelle source nous buvons vraiment. Sommes-nous toujours à la bonne source? Buvons-nous à la source de la vie? Ou allons-nous nous abreuver de temps en temps ailleurs? C'est pour ça que parfois notre vie spirituelle n'est pas toujours un succès. Parce que nous ne prenons peut-être pas le temps de nous désaltérer à la source de la vie. Trouvons-nous, frères et sœurs, toujours du plaisir dans sa parole? Avons-nous cette soif de lire cette parole? Avons-nous ce désir d'approfondir notre connaissance? Car cette connaissance nous permet d'affronter le lendemain, nous permet d'affronter le danger, nous permet d'affronter nos difficultés qui se dressent sur notre route. Avons-nous cette soif de lire cette parole, de la connaître? Avons-nous cette soif de cette rencontre avec le Seigneur dans la prière? Prenons-nous ce temps nécessaire pour nous désaltérer dans la présence du Seigneur? Ou perdons-nous notre temps avec des choses qui nous assoiffent plutôt qu'elles nous désaltèrent? N'est-il pas temps, frères et sœurs, pour nous, chrétiens, de longue date, de faire un examen de conscience et de retourner à la source d'eau vive? Prions. Seigneur notre Dieu, tu es la source qui désaltère. Et Seigneur, c'est vrai que des fois, nous ne prenons pas ce temps d'aller boire à la source. Et nous voulons ce matin te demander pardon, Seigneur, afin que nous puissions reprendre le chemin de la source et de nous désaltérer à nouveau. Seigneur notre Dieu, bénis ton peuple. Bénis ceux qui ont des difficultés peut-être ce matin à prendre ce temps de méditation et de prière. Ô Seigneur, tu veux faire grandir ton Église, nous le croyons. Alors, bénis nos frères et sœurs ce matin. Amen.